ね、名古屋のアスケプティカルの DG ってなってる。で、アプレッサー、で、B、エレブロックのジャーシスティック、セロウティブ・ナロショマン、ロス・イレフィルリ
ー。
Je dis que le moment arrive quand on, quand on comprend que c'est le désir qu'il faut rejeter. Mais il y a difficulté de discerner si c'est le désir qui me guide. Parce que le divin aussi, c'est le désir ou le désir.
On ne se trompe que quand on veut se tromper. C'est très, très, très différent. Bien, alors ça suffit. Si on comprend quelque part, ça suffit. Hein? Rien, nulle part. Personne n'a de questions. Eh bien, on ne parlera pas. C'est très clair. On ne va pas parler.
Mais le 6, tu as donné. Chacun a demandé ce qu'il a et ce qu'il est. Rien de plus et rien de moins.
Oui.
Qu'est-ce que tu dis par ce qu'il a et ce qu'il est?
Je vais dire dans quelles circonstances je l'ai écrit, ça te fera comprendre. C'est quelqu'un qui m'écrivait en me disant qu'il était très malheureux parce que il rêvait d'avoir des capacités merveilleuses à mettre à la disposition du divin pour la réalisation, pour le travail, et aussi qu'il rêvait d'avoir des richesses immenses pour pouvoir les donner, les mettre au pied du divin pour l'œuvre. Alors je lui ai répondu que ça ne fallait pas être malheureux, qu'on demandait à chacun de donner ce qu'il a, c'est-à-dire toutes ses possessions, quelles qu'elles soient, et ce qu'il est, c'est-à-dire toutes ses possibilités, ce qui correspond à consacrer sa vie et donner toutes ses possessions. Et qu'on ne demandait rien de plus que ça. Ce que vous êtes, donnez-le. Ce que vous avez, donnez-le. Et votre don sera parfait. Au point de vue spirituel, il sera parfait. ça ne dépend pas de la quantité de biens que vous avez ou du nombre de possibilités que votre caractère contient. Ça dépend de la perfection de votre don, c'est-à-dire de la totalité de votre don. Je me souviens d'avoir lu dans un livre qui racontait des choses de l'Inde, une histoire comme ceci, qu'il y avait une très pauvre, très vieille femme qui ne possédait rien, qui était tout à fait misérable, qui vivait dans une petite hutte misérable et qui, à qui on avait donné un fruit, c'était une mangue. Elle en avait mangé la moitié et gardé l'autre moitié pour le lendemain parce que c'était une chose si merveilleuse qu'il n'y arrivait pas souvent d'avoir une mangue. Et alors, quand la nuit est tombée, quelqu'un a frappé à la porte branlante et a demandé l'admission. Et ce quelqu'un est entré et lui a dit qu'il voulait l'abri et qu'il avait faim. Alors elle avait où? Elle lui a dit, bon, je n'ai pas de feu pour vous chauffer, je n'ai pas de couverture pour vous couvrir, et il me reste la moitié de cette manque, c'est tout ce que j'ai. Si vous la voulez, j'en ai mangé la moitié. Et il se trouve que ce quelqu'un était Shiva, et qu'alors elle a été remplie d'une gloire intérieure parce qu'elle avait fait un don parfait d'elle-même et de tout ce qu'elle avait. J'avais lu ça, j'avais trouvé ça magnifique. Eh bien oui, c'est très descriptif, c'est ça. C'est cela même. L'homme riche ou même les personnes qui sont dans le bien-être et qui ont toutes sortes de choses dans la vie et qui font don au divin de ce qu'ils ont en surplus, parce que c'est généralement le geste. On a un peu plus d'argent qu'on en a besoin, on a un peu plus de choses qu'on en a besoin, et alors, généreusement, on donne ça au divin. C'est mieux que de ne rien donner. Mais même si ce un peu plus que ce dont ils ont besoin représente des lacs de roupies, le don est moins parfait que celui de la moitié de la manque. Parce que ce n'est pas à la quantité ni à la qualité que ça se mesure, c'est à la sincérité du don et à l'absolu du don.
Pour les hommes riches dans la vie ordinaire, s'il veut donner la richesse au divin, le divin n'est pas en face de lui, alors à qui donner? Ils ne savent pas où mettre l'argent.
Oui, mais alors ça n'entre pas en question. S'ils n'ont pas rencontré le divin, ou intérieurement, ou extérieurement, ça n'entre pas en question. On ne leur demande pas de donner à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. S'ils ont rencontré le divin au-dedans d'eux-mêmes, eh bien, ils n'auront qu'à suivre l'indication donnée par le divin de l'emploi qu'ils ont à faire de ce qu'ils ont. Et s'ils suivent d'une façon tout à fait sincère et correctent les indications qu'ils reçoivent, c'est tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'il peut leur être demandé. Mais jusqu'à ce moment-là, rien n'est demandé à personne. On ne commence à demander que quand on dit, voilà, moi je veux me consacrer au divin, alors c'est très bien. À partir de ce moment-là, on ne demande mais pas avant. Avant, même si, en passant, vous tirez de votre poche un écu et vous le mettez là, c'est très bien. Vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire et c'est tout, on ne vous demande rien du tout. Il y a une grande différence entre, au fond, entre demander au divin de vous adopter et puis faire un geste de bonne volonté, mais sans avoir la moindre intention de changer quoi que ce soit au cours de sa vie. Ceux qui vivent d'une vie ordinaire, bien, s'ils font un geste de bonne volonté, c'est tant mieux pour eux, ça leur crée des antécédents pour les vies suivantes. Mais c'est seulement du moment où on dit, voilà, maintenant je sais qu'il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est la vie divine et je veux vivre la vie divine. C'est à partir de ce moment-là que c'est demandé, pas avant. Je ne comprends même pas ce que vous dites. Voilà.
Mais je pose une autre question. Il y a des gens qui arrivent ici, qui ont de l'argent, et qui ont très dévoué, montrent le dévouement. Mais quand la question de l'argent arrive sous le nez, ils font des commerces. Alors, comment est-ce que vous gardez le contact avec le présentateur? Il y a des gens qui arrivent, qui ont de l'argent, qui montrent leur dévouement pour le divin. Mais quand la question...
De quelle manière? En prenant de lui tout ce qu'il peut.
Quand la question d'argent arrive, ils font des commerces, ils calculent, ils donnent.
Je vous dis, je vous ai répondu, c'est comme ça. Ils viennent avec l'idée de prendre du divin tout ce qu'ils peuvent. Toutes les vertus, toutes les capacités, toutes les convenances aussi, toutes les commodités, tout, et quelquefois même des pouvoirs et tout le reste. Ils viennent pour prendre, ils ne viennent pas pour donner. Et leur apparence de dévouement, c'est simplement un manteau qu'ils ont mis sur leur volonté de prendre, de recevoir. Ça a un grand champ depuis sauver son âme, avoir des expériences spirituelles, obtenir des pouvoirs, et ça finit par une petite vie tranquille, confortable, plus ou moins, enfin avec un minimum de confort, et pas de soucis, pas d'embêtements, hors des tracas de la vie. C'est comme ça, ça fait une grande échelle. Mais S'il donne, c'est parce que c'est une sorte de marchandage. Ils savent que pour prendre tout ça, il faut bien donner un peu quelque chose, autrement ils ne le recevront pas. Alors ils font semblant d'être très dévoués, mais ce n'est qu'une ressemblance, parce que ce n'est pas sincère. Le malheur pour eux, c'est que ça ne trompe personne. Ça peut être toléré, mais ça ne veut pas dire qu'on est trompé. Le marchandage est partout, dans toutes les parties de l'être. C'est toujours donnant-donnant. Depuis les expériences spirituelles les plus hautes jusqu'aux petits besoins matériels les plus minimes. Il n'y en a pas un sur un millier qui donne sans marchander. Et justement, l'histoire dont je vous ai parlé, la beauté de l'histoire, comme d'ailleurs il y en a beaucoup comme ça ici, c'est que quand la vieille femme a donné, elle ne savait pas que c'était Shiva. Elle a donné au mendiant qui passait pour la satisfaction de faire, soit de faire du bien, de donner. Pas parce que c'était un dieu et qu'elle espérait en échange avoir le salut ou quelque connaissance. Il y a encore une malice dans l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est ? Accoucher.
Vous avez dit que ce désir, on commence avec le désir, le travail. Mais c'est guidé par le divin aussi. Lorsqu'il a compris, maintenant ce n'est plus le désir, c'est le don absolu. Mais tout de même, ça n'est déjà pas ça. Ça continue par indéfini. C'est quoi ça?
J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire. Traduisez.
On commence. On commence en mélangeant le désir à son
inspiration. Oui, ça c'est ce qu'il y a écrit.
Et ensuite on reconnaît qu'il y a un désir qui est mélangé.
Oui.
Et mais on n'arrive pas à le rejeter, ce désir continue. C'est ça ?
Non.
C'est pas ça.
C'est ça,
mais c'est pas ça.
Vous avez dit que ça peut être toléré. Donc il y a une période de tolération. Mais quand se dépasse la période de tolération, et ça ne veut pas s'arrêter. C'est ça la question.
Et alors quoi? Qu'est-ce qui arrive?
Vous me demandez comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, enfin, il a dit ce qu'il voulait. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être sincère. C'est ça, toujours. Toujours. le petit ver dans le fruit. On se dit, oh, je peux pas, c'est pas vrai. Si on voulait, on pourrait. Et il y a des gens qui me disent, je n'ai pas de volonté. Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère. Parce que la sincérité est une force infiniment plus puissante que toutes les volontés du monde. Ça peut changer n'importe quoi en un clin d'œil. Ça prend, ça tient, ça arrache et puis c'est fini. Mais on ferme les yeux, on se donne des excuses.
Ça renouvelle tout le temps.
Ça revient. Parce que vous ne l'arrachez pas complètement si vous faites. Vous coupez la branche. Alors ça repousse.
Ça prend une différente forme.
Non, on l'enlève chaque fois que ça vient, c'est tout, jusqu'à ce que ça ne vienne plus. On a parlé de ça où c'était dans le Lumière sur le yoga, je crois, que vous repoussez d'une partie de votre conscience dans une autre, et vous repoussez, et puis ça va dans le subconscient. Et alors si vous n'êtes pas vigilant, vous croyez que c'est fini, et puis de là ça monte au son nez. Et alors même quand vous le repoussez du subconscient, ça descend dans l'inconscient. Et puis là aussi, vous courez après pour le trouver. Mais il y a un moment où c'est fini. Tout le monde, on est toujours trop pressé. On veut que ça soit fini bien vite. Quand on a fait un effort, ah ben j'ai fait un effort, maintenant je dois avoir la récompense de mon effort. Au fond, c'est parce qu'il n'y a pas cette joie du progrès. La joie du progrès, elle imagine que même si on a réalisé le but que l'on s'est proposé, mettez maintenant le but que nous nous proposons si nous réalisons la vie supramentale, la conscience supramentale. Eh bien, cette joie de progrès dit, oh, mais ça ne sera qu'une étape dans l'éternité du temps. Après ça, il y aura autre chose, et après l'autre chose, il y aura encore autre chose. Et toujours, il faudra avancer. Et c'est ça qui vous remplit de joie. Tandis que l'idée de, ah, maintenant, on s'assoit, c'est fini, on a réalisé, on va jouir de ce que l'on a fait. Oh, comme c'est ennuyeux. On devient tout de suite du vieux rabougri. la définition de la jeunesse, on peut dire que la jeunesse perpétue, la jeunesse c'est la croissance constante et le progrès perpétuel. Et la croissance en capacité, en possibilité, en champ d'action et en étendue de conscience, et le progrès dans la réalisation des détails. Ça, évidemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on n'est pas toujours jeune quand on s'arrête de grandir. J'ai dit, évidemment, je ne conçois pas qu'on grandisse perpétuellement. Mais on peut grandir d'une autre manière que purement physiquement. C'est-à-dire que dans la vie humaine, ce sont des périodes successives. À mesure que vous avancez, il y a quelque chose qui est terminé sous une forme et qui change de forme. Naturellement, maintenant, on arrive au haut de l'échelle et on redescend, mais c'est tout à fait fâcheux, c'est pas comme ça que ça doit être, c'est une mauvaise habitude. Mais quand on a fini de pousser, qu'on est arrivé au degré de hauteur que l'on conçoit comme celui qui vous exprime le mieux, on peut transformer cette force qui vous fait pousser en une force qui perfectionnera votre corps, qui le rendra de plus en plus fort, de plus en plus solide, avec une santé de plus en plus résistante. Et on fera de la culture physique pour devenir un modèle de beauté physique. Et puis, en même temps, on commencera lentement, mais on poursuivra une perfection du caractère, de la conscience, de la connaissance, des pouvoirs et finalement de la réalisation divine dans tout ce qu'elle a de merveilleusement bon et vrai et de son amour parfait. Et ça, il faut continuer. Et quand on aura atteint une certaine hauteur de conscience et qu'on aura fait réaliser cette conscience dans le monde matériel et qu'on aura transformé le monde matériel à l'image de cette conscience, eh bien on montera encore un échelon plus, on ira à une autre conscience et on recommencera. Mais ça, c'est pas pour les paresseux. Les gens qui aiment le progrès. Pas pour ceux qui viennent et qui disent « Oh, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, maintenant je veux me reposer. Voulez-vous me donner une place dans la chambre ?» Je leur dis pas ici. C'est pas une place pour se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé. C'est une place pour travailler encore beaucoup plus qu'auparavant. Alors, avant, je les envoyais à avant de marcher. Je leur disais, allez là, vous entrerez en méditation et vous vous reposerez. Maintenant, c'est impossible. Alors, je les envoie dans l'Himalaya. Je leur dis, allez vous asseoir devant les neiges éternelles. Ça vous fera du bien. Voilà.